Il est 9h40 sur France Inter, dernier instant M de la semaine.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
La très belle et très épaisse revue 21, dont le dernier numéro est sorti en librairie, est consacrée à la Turquie d'aujourd'hui. Mon invité est une jeune journaliste dont le village familial est situé en Anatolie. Un jour, sa maman lui annonce que son oncle s'est acheté une femme, une Syrienne. Qu'il est passé par une marieuse, regard sur ces intermédiaires qui dénichent sur commande des épouses dans tout le pays. Bonjour Sévine Ressaïn.
Bonjour.
Non, je viens d'écorcher votre nom, c'est
non,
ça ?
Non, pas du tout, non, ça va très
tout,
bien.
C'est vrai ?
Oui, bravo.
C'est toujours compliqué les noms turcs, je me plante à chaque fois. La Marieuse d'Antioche, c'est le nom de c'est le titre de ce long texte que publie 21. On va y revenir très rapidement après trois questions posées à Léa Salamé. Elle est avec nous par téléphone. Hier soir, elle copilotait avec David Pujadas la grande série d'interviews des candidats à la présidentielle sur France 2, prise d'antenne à 20h. Vers 21h, une fusillade éclate sur les Champs-Élysées. Les journalistes ont dû s'adapter en direct, les candidats aussi. Comment ont-ils vécu cette soirée? Quelles informations, quelles instructions leur parvenaient sur le plateau?
L'instant M, le rendez-vous média de France Inter.
Bonjour Léa Salamé.
Bonjour Sonia.
Merci d'être avec nous dans l'instant M ce matin. J'imagine que la nuit a été courte, que la soirée s'est finie tard. J'aimerais pour ceux qui n'étaient pas devant France 2 hier soir qu'on comprenne bien le dispositif afin qu'on comprenne ce que vous avez vécu. Vous n'êtes pas sorti, vous n'avez pas quitté le plateau pendant plus de 3h et demie même. Les candidats... 4h.
Voilà. Ça a commencé à 20h pile et que ça s'est terminé à minuit.
À minuit, les candidats sortaient, le suivant arrivait et vous, vous restiez en place. Je précise également qu'il n'y avait ni archives, ni reportages, donc finalement pour vous, aucun moment de pause. Comment vous parvenaient les informations, Léa, hier soir ?
Ben, grâce à l'oreillette. On avait, David et moi, une oreillette. Vous avez exactement bien résumé le dispositif tel qu'il était prévu à l'origine, c'est-à-dire une émission 100% en direct avec une prise d'antenne exceptionnelle à 20h, ce que ça s'est jamais fait, vraiment créer un moment, on en a parlé, ultra statutaire à 3 jours du vote, où on ne voulait pas laisser la place à la polémique, on ne voulait pas qu'il y ait de clash, on voulait vraiment donner 15 minutes sérieuses, sobres, aux candidats pour développer leurs derniers arguments avant le vote. Donc la soirée commence à 20h, on part comme ça, ça commence avec Jean-Luc Mélenchon, on fait le dispositif tel qu'il avait été validé par tous les candidats, c'est-à-dire des questions économiques, puis une carte blanche à leur choix, puis ensuite des questions internationales et régaliennes, l'objet pour commencer, la photo pour terminer. Ça, c'était le dispositif. Ça se déroule bien, Jean-Luc Mélenchon, puis Nathalie Arthaud, puis Marine Le Pen, tout va bien jusque-là. Et puis ensuite, comme vous le dites, à 21h, on commence à entendre dans l'oreillette Michel Field et les rédacteurs en chef qui nous disent Léa, David, il y a une dépêche qui vient de tomber, il y a eu une attaque sur les Champs-Élysées, un policier vient d'être abattu. Pour l'instant, vous ne l'annoncez pas, on continue le dispositif tel quel. Et puis, au fur et à mesure où vous avez en régie les rédacteurs en chef qui recevaient les informations, qui vérifiaient les informations, on a commencé, je ne sais pas quelle heure il était, vous devez le savoir mieux que moi, un peu après 21h, à donner l'information, David Pujadas, à donner l'information.
En fait, vous avez suspendu l'interview de Nicolas Dupont-Aignan, juste avant sa conclusion. Vous dites il s'est passé quelque chose, David Pujadas prend le relais et donne l'information.
Exactement. Et là, vous avez une émission qui était censée être minutée, ultra statutaire, je vous le dis, c'était le deal et c'est ce qu'on voulait faire. On n'avait pas du tout envie, c'était plus le moment de la confrontation. C'était la fin de cette campagne qui a été hystérique à mille égards et sur laquelle on reviendra. Là, il fallait faire quelque chose de sérieux et d'instructif et de très service public. C'était ça le cahier des charges. Et soudainement, on voit la mécanique qui ne dévisse pas d'ailleurs, mais on voit cet événement qui rentre et évidemment tout notre esprit à nous journalistes et aux candidats est complètement bouleversé. C'est-à-dire comment gérer cette information-là en direct, puisqu'on est en direct, tout en respectant le cahier des charges, parce qu'il y avait déjà des candidats qui étaient passés. Donc il était impossible, si vous voulez, de donner à Emmanuel Macron ces 15 minutes pour ne parler que de l'attentat, puisque sinon les autres auraient protesté en disant « Attendez, il faut qu'il parle de l'économie, il faut qu'il parle de sa carte blanche, etc. » Donc si vous voulez, ça a été extrêmement sioux et délicat et minutieux à gérer. Moi, c'est une des choses les plus compliquées que j'ai eu à faire parce que voilà, il fallait pas céder à l'émotion. On n'était pas une chaîne tout info. Donc si vous voulez, il fallait garder le canevas statutaire de l'émission,
respecter le temps de parole qui est extrêmement minuté. D'ailleurs, vous dites on n'était pas une chaîne tout info. Donc à aucun moment on vous a dit dans l'oreillette ou à aucun moment il n'a été imaginé d'interrompre le programme pour passer en édition spéciale, pour avoir un flash d'informations, pour donner des informations.
Écoutez, je pense qu'ils se sont peut-être posé la question en régie. En tout cas, nous, de notre côté, c'était il faut continuer l'émission telle quelle, parce qu'il y a quand même, on est à 3 jours du vote, voyez Sonia, si c'était à 6 mois du vote, peut-être que ce serait passé différemment, mais là on est à 3 jours du vote, d'un vote capital, avec 30% d'indécis, il ne s'agissait pas, si vous voulez, de jouer à quoi que ce soit. Donc il s'agissait de faire entrer cette information, de la traiter avec les candidats, et on a décidé assez vite que la conclusion, ils ont dit aux 11 candidats qui attendaient derrière, vous utiliserez évidemment cette conclusion pour revenir derrière. Ils sont tous revenus sur l'événement.
Juste après l'annonce, vous recevez Philippe Poutou qui lui choisit de ne pas s'adapter, c'est-à-dire il continue de parler de désarmer les policiers, il revient sur les bavures policières en banlieue, et vous ne le ramenez pas à ce qui vient de se passer alors qu'un agent vient d'être abattu et que 2 autres sont blessés.
Bah écoutez, si, ma question a été orientée quand je lui dis, vu ce qui se passe encore ce soir sur les Champs-Élysées, est-ce que vous continuez à penser qu'il faut désarmer les policiers? Mais là, une fois de plus, si vous voulez, ça tombait bien ou mal, mais en tout cas, la question du désarmement des policiers, elle était prévue à l'origine, même ça. Et après, c'est son choix et c'est son droit de défendre sa position jusqu'au bout, malgré, libre à lui, si vous voulez, de dire oui, il faut continuer à désarmer les policiers, malgré ce qui se passe sur les Champs-Élysées, c'est sa position, hein, Philippe Poutou. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est, si vous voulez, pour ce qui est du ressenti et des sentiments, on a vraiment senti que l'ambiance avait complètement changé. Minute après minute, l'ambiance changeait sur ce plateau, devenait de plus en plus grave, de plus en plus lourde. On voyait sur le visage des candidats qui rentraient, si vous voulez, eux-mêmes ont dû tout changer. Les visages prenaient, enfin, si vous voulez, à mesure que l'émission évoluait dans le temps. Vraiment une gravité incroyable qui s'est terminée par cette séance de conclusion des 11, où je peux vous dire vraiment que la lourdeur de l'événement était palpable sur le plateau. Il y avait un silence incroyable, personne ne souriait, tout le monde s'écoutait. Et c'était très étonnant, si vous voulez, à la fois angoissant et sobre. Il y avait quelque chose, et peut-être quelque chose un peu de digne, je dirais, de la part de tous les candidats. Et dans ce moment-là, qu'en tout cas moi j'ai le sentiment que tous on avait essayé d'être à la hauteur de ce qui se passait, quelles que soient les inclinaisons des uns et des autres.
Merci beaucoup, merci Léa Salamé d'être venue raconter cette soirée très très particulière.
Merci,
dans l'Instant M, à très vite.
Merci. L'Instant M avec Sonia De Villers.
Voilà, un chant d'amour et de sagesse d'Anatoly que nous avons déniché dans la discothèque de Radio France. Sévin Reyrain, vous êtes mon invité ce matin, vous êtes franco-turc. Vous faites le portrait dans La Marieuse d'Antioche, ce long reportage que vous publiez dans la revue 21, de Gül. Alors c'est comme ça que vous l'appelez, je ne sais pas si c'est son vrai nom. Cette femme, elle a 47 ans, elle fait 1m60, elle est très autoritaire, elle est crainte par tout le monde. C'est une vendeuse hors pair, elle convaincrait n'importe qui d'acheter n'importe quoi. D'un bout à l'autre de la Turquie, dites-vous, des hommes et des mères connaissent son numéro. Vous l'avez rencontrée parce que dans votre village familial, votre oncle s'est acheté une femme. Qu'est-ce que ça veut dire, s'acheter une femme ?
C'est ça. Donc, ma mère rentrait de vacances au mois d'août dernier et elle me dit « Ton oncle a acheté une Syrienne ». C'était un peu comme si elle disait, pour elle, ça paraissait assez banal. C'est comme si elle me disait qu'elle avait acheté un appartement. Ouais. Et donc, je m'y suis intéressée. Qu'est-ce que ça veut dire, acheter une Syrienne ? C'est faire beaucoup de routes, donc c'est à Antioche, à la frontière syrienne, c'est 600 kilomètres de ce village d'Anatolie, pour trouver une épouse.
Et en plus, vous le dites, en Anatolie, c'est très rare une union avec une étrangère.
Ah oui, c'est très rare, et surtout les Syriens ne sont pas forcément très bien vus partout, donc c'est pas, peut-être qu'une Allemande, ça m'aurait moins étonnée, mais une Syrienne dans la famille, ça, voilà, j'ai tilté, et...
Et vous êtes rentrée dans cette histoire. Pourquoi votre oncle est-il passé par Gull, par cette marieuse que vous avez découverte à cette occasion?
Alors lui, ce sont des amis. Il y avait déjà deux Syriennes qui étaient arrivées dans le village. Ouais. Et a priori, ça se passait bien. Et il était marié, il a divorcé. C'était à son âge. En plus, il est paysan. Donc c'est compliqué de trouver une femme. Mm-hmm. Quand on a, il doit avoir 47 ans. Donc on lui en a parlé, on a dit écoutez.
Ça lui a coûté combien?
Alors lui, ça lui a coûté, la marieuse, elle prend 5000 livres, donc c'est à peu près 1200 euros. Mm-hmm. Et après, il faut donner de l'argent à la famille. Et
1200 euros, c'est beaucoup pour un village d'Anatolie?
C'est beaucoup, c'est 3 ou 4 mois de SMIC ouais. local, donc c'est beaucoup. Et en plus, il faut acheter de l'or après, envoyer de l'argent. Dans ce cas, c'était à la famille qui est encore en Syrie, au père qui était malade, qui doit se faire opérer. Donc ça lui a coûté plus que ça. C'est beaucoup. Parfois, c'est 6 mois de travail pour un paysan, donc c'est énorme.
Justement, dans ce mariage. Et alors, ce qui est très intéressant dans ce long texte que vous publiez, c'est que à travers cela, on comprend beaucoup de choses sur les femmes en Turquie, sur le sort des réfugiés qui font partie de ces épousés trouvés et repérés par les intermédiaires. Mais aussi, on se pose beaucoup de questions sur ce que c'est que le mariage en Turquie. Je voudrais vous faire écouter l'extrait d'une émission de télé-réalité qui est très très très regardée sur Flash TV en Turquie.
Hayır, benimle yaşayacak. Benimle yaşayacak hanımları tekrar.
Evet, benimle yaşayacak hanımları.
Çok mutlu ederim.
Çok mutlu ederim.
Ömür boyu.
Ömür boyu.
Huzur veririm.
Eşikten mezara kadar. İki günlük değil.
Mezara kadar.
Mezara kadar, eşikten mezara kadar.
Pazara kadar değil, mezara kadar. La la la la la, güzel amcayı evlendirelim.
Bon, ça vous fait encore plus sourire que nous, parce que vous comprenez.
Parce que je comprends, ouais.
Vous comprenez. Ça, la télévision fait irruption plusieurs fois dans votre reportage. Elle est très très présente dans les foyers. Et le mariage, il est très présent à la télévision ouais. turque.
Il est très présent parce que, alors moi, dans les négociations de mariage comme ça, quand je suivais ma marieuse qui allait acheter des femmes, il y avait toujours une émission de mariage, une émission de télé-réalité où les hommes viennent, et les hommes et les femmes, voilà, ce sont des candidats au mariage et ils doivent choisir, sélectionner. Des époux et ce sont des émissions qui durent 2 heures.
Oui.
Il y a un jury qui se mêle un peu de tout et là ils s'engueulent, ils s'immiscent vraiment dans la vie de ces deux personnes qui se connaissent.
Émission très regardée, mais en même temps émission qui font beaucoup polémique aujourd'hui.
Oui, qui font très polémique. On a parlé de leur interdiction parce que moi je trouve que c'est vraiment un objet sociologique sur le mariage en Turquie. Alors c'est pas, la Turquie est très divisée hein, entre la Turquie rurale et la Turquie des grandes
urbaine,
villes.
Il y a
voilà le mariage, qu'est-ce que ça veut dire dans les grandes villes. Je pense que c'est pareil qu'ici, quand une femme a des moyens, elle travaille, voilà, elle se marie plutôt par amour. Et dans ces émissions-là, on voit aussi que le mariage est une façon de s'émanciper pour la femme et que l'argent est extrêmement important. L'une des premières questions, l'un des premiers critères, c'est est-ce que tu as une maison ? Alors, est-ce que tu es en location ou tu es propriétaire ? Ça, c'est très important d'être propriétaire. Si la personne est plus âgée, est-ce que tu as une retraite ? Donc on voit que c'est un élément pour la femme. La femme, elle travaille pas, elle reste à la maison. L'homme doit apporter l'argent et ça, on le voit très bien dans
cette émission-là. Alors ce qu'on découvre dans votre reportage, hein, c'est que des femmes cherchent à se placer, des tantes cherchent à placer leurs nièces, mais des hommes cherchent aussi des femmes. Donc ça concerne les deux sexes
oui.
et toutes les générations. Votre marieuse Gül, 2000 unions en 17 ans, pas un divorce, elle s'en targue. Turque, géorgienne, russe, syrienne. Je fais tout, vous dit-elle. Je demande aux hommes d'être très directs et de me préciser le type de femme qu'ils cherchent, l'âge, le poids, le trait de caractère. Il y en a qui veulent des personnes éduquées afin de pouvoir les présenter autour d'eux, la sortir en public. D'autres qui s'en fichent, ils ont prévu de l'enfermer à la maison. Donc là, on est au cœur des négociations. Et vous allez vous pencher sur le cas de Şükrü et de Asya.
Oui, alors Şükrü, c'est un homme, c'est un paysan anatolien de 32 ans. Il a déjà été marié. Il a été marié pendant 6 mois avec une femme et en fait, et ça n'allait pas. Et pourquoi ça n'allait pas? Parce que sa femme ne se levait pas une demi-heure avant lui pour préparer le petit déjeuner. Donc ses critères étaient beaucoup plus précis cette fois-ci. Il disait il faut qu'elle me fasse mon petit déjeuner, qu'elle prépare mon dîner.
Il a fait 700 kilomètres hein, pour oui. rencontrer Gül. Oui. Il a déjà vu 30 épouses putatives potentielles. Il n'en a aucune n'a voulu de lui.
Aucune. Et lui, il n'en a pas voulu. Oui, alors il était venu avant son premier mariage, il était venu voir Gull. Après, il a trouvé une femme et donc il a divorcé au bout de 6 mois. Et là, il revient. Il a revu à la baisse ses critères. Avant, il voulait une femme très belle et maintenant, il s'est rendu compte que Tuclé n'était pas non plus très, très, très beau. Donc il s'est dit, bon, bah, je vais prendre quelqu'un de moins joli finalement. Le physique ne dure qu'un temps. Et il a vu 3 femmes, une Syrienne très jeune de 18 ans, une autre Syrienne de 30 ans, et il a voulu Asya, qui est une Turque qui est divorcée de 30 ans, il a voulu Asya. Et donc moi j'ai participé aux négociations avec les parents de Asya.
Avec une mère qui voudrait fourguer sa fille, hein, et qui prie Dieu que ça se passe, et un grand frère qui garde l'autorité jusqu'au bout. C'est le grand frère qui va décider.
Oui, après il faut savoir qu'Asya, elle a souffert quand même, son mari était alcoolique, il rentrait jamais à la maison. Et la mère, c'est pas tant qu'elle voulait elle savait pas, c'était une femme qui avait très très âgée, qui avait pas du tout qui avait pas fait d'études, elle ne savait pas ce qu'il fallait faire, donc elle priait Dieu pour que le meilleur se fasse, et le frère n'avait pas trop envie de l'envoyer à 700 km d'Antioche.
Mais Gull, elle vous dit, Asya, il faut pas qu'elle fasse la difficile, personne ne voudra d'elle. À Antioche, il y a plein de Syriennes, qui va prendre une divorcée de 30 ans. Qu'est-ce que ça veut dire, à Antioche, il y a plein de Syriennes? Parce que là aussi, vous pénétrez dans un tout nouveau business dans lequel il y a énormément d'arnaques et de fraudes.
Oui, alors à Antioche, il y a plein de Syriennes, oui. À Antioche, il y a 400 000, il me semble, Syriens, donc c'est 15% de la population. Les Syriens ne vivent pas tous dans les camps, ils vivent en dehors des camps et ils vivent dans des, dans des conditions très difficiles. Et la Syrienne demande pas beaucoup d'argent, elle veut juste être mariée. Enfin, c'est ce que la marieuse dit. Et il y a des arnaques parce qu'il y a des hommes qui profitent de cette situation et des deux en fait. Alors les victimes sont du côté turc parce que ce sont des hommes qui cherchent des femmes, des hommes âgés souvent retraités qui ont perdu leur femme.
Alors ils payent. Ils offrent les bracelets, ils donnent la dot et puis la femme disparaît
avec tout l'or et tout l'argent et on les revoit plus.
Et là, vous dites aussi que la télévision turque et les forums internet regorgent de plaintes sur ces questions. Oui, vous parlez par exemple avec le maire d'une commune qui dit « je ne veux plus voir ces intermédiaires, je ne veux plus voir ces marieurs, fuyez-les ».
Oui, moi je voulais en rencontrer justement et on m'a dit bon bah pour rencontrer tu fais semblant de vouloir te marier et puis tu vas voir, tu vas dans un parc, tu t'assois. Enfin moi non parce que je suis une femme et ça marche pas, mais j'y vais avec un ami et je l'ai pas fait parce que le maire m'a fortement déconseillé de faire, donc j'ai plutôt parlé avec le maire. Il m'a dit non mais il y a des hommes qui ont été arnaqués 2 fois, un vieil homme de 70 ans qui a payé une Syrienne assez jeune, qui doit avoir dans les 20 ans, il a acheté l'or. Et une fois qu'ils arrivent, en fait, ce sont des personnes qui arrivent de loin. Et quand ils arrivent à la station d'autobus, la femme dit qu'elle va aux toilettes et elle a disparu.
Et elle disparaît. Bon. Il y a quand même quelque chose de très drôle dans le portrait assez insensé que vous faites de Gull. C'est qu'elle-même, elle est divorcée 2 fois. Elle élève 2 grands et un petit enfant toute seule. Et elle vous demande à vous, Séverine, de lui trouver un mari.
Oui, il y a un filon à...
Marier les marieuses.
Elle, je sais pas comment elle fait pour pas trouver, mais elle a des critères. Elle veut de l'argent. Hein, surtout,
elle veut de l'argent. Elle voudrait un Turc immigré en Europe.
En Europe, oui, ce qu'elle disait. J'aimerais bien qu'il ait 2 retraites, une retraite française et une retraite turque.
Ouais, c'est ça. Et elle est même prête à recourir à la chirurgie esthétique pour se faire enlever quelques bourrelets.
Elle ferait tout pour avoir un bon mari.
Pour que vous lui trouviez un bon mari. Moi, je vous conseille donc de lire Le Mystère Turc. C'est ce nouveau numéro de la revue 21. On a mis un petit coup de projecteur sur votre papier, mais il y en a d'autres qui sont absolument passionnants et bien écrits. C'est la fin de cette émission. Moi, je remercie toute mon équipe, Violaine Baller, Edouane Tella, Anne-Cécile Perrin, Nicolas Delmas, qui était ce matin à la technique. Et on se retrouve tous lundi. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sonia De Villers.
Bonjour Ali. Alors, quoi de neuf? Non, quand bien vous fasse. Allez-y.
Comment être plus créatif dans sa vie, quel que soit le domaine? 01 45 24 7000.
On peut parler de la radio.